Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business.
De retour dans le Business Club de France qui est en Grèce cette semaine, tout près de Thessalonique, en bordure de mer Égée, car c'est ici qu'a eu lieu la 10e édition des Big Boss. Les Big Boss, ce sont ces patrons du e-commerce, ces patrons du marketing, innovation, clients de grandes marques, hein, qui rencontrent des dirigeants d'entreprises, souvent de plus petite taille, mais extrêmement innovantes. Objectif, développer du business ensemble. Ces entreprises innovantes, on va peut-être les appeler des offreurs de solutions nouvelles. Et parmi elles, Allo Media, Romain Sambarino, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors, on va déjà peut-être rappeler ce que vous proposez, parce que c'est un concept qui est pas banal, à l'heure où on parle beaucoup de technologie. Vous utilisez des technologies, mais quelque part, je dirais, et c'est très humain votre démarche. Racontez-nous ce que vous faites.
Tout à fait Michel, effectivement on a développé une technologie qui s'appelle le cookie vocal après 4 ans de recherche et développement. Donc tout simplement quand on appelle une marque au téléphone, on dit plein de choses, on parle beaucoup et tout ce qu'on va dire à la marque finalement va pas remonter dans ses outils puisque naturellement c'est un téléconseiller ou un vendeur qui est un humain qui va prendre l'appel et qui peut pas nous répondre, nous écouter et tout noter dans un outil. Donc en partant de ce constat-là, on a créé le cookie vocal qui permet en temps réel de finalement tout transcrire et pouvoir remonter à la marque l'intégralité de la conversation en données clients actionnables.
Alors, quand vous appelez ça un cookie vocal, j'ai presque envie de dire c'est un enregistrement.
Alors, en quelque sorte, on se branche sur le flux téléphonique de la marque, comme si on était en double écoute automatique, pour pouvoir bien comprendre ce que dit le client et ce que dit l'agent, le vendeur. Non pas pour fliquer, on n'est pas là pour ça du tout, mais pour aider finalement la compréhension humaine, augmenter la compréhension humaine. Voilà.
Alors, pas fliquer, c'est juste une conversation avec un numéro. Mais, ça veut dire quoi? À quoi ça sert? On dit plus de choses en parlant que lorsqu'on écrit un mail ou que lorsqu'on se plaint autrement?
Tout à fait, Michel. Le téléphone, c'est le canal aujourd'hui le plus naturel qui est qui grandit depuis des années. C'est 300 milliards d'appels chaque année vers les marques et ça augmente puisqu'on voit l'émergence du smartphone, l'émergence de la voix et la convergence qui fait qu'il y a de plus en plus d'appels téléphoniques et c'est facile quand on appelle une marque, on est en direct. On se livre plus facilement, c'est naturel, on parle à un être humain, entre deux êtres humains, on se parle facilement. Alors que dans un email, dans un SMS, on se contient un peu plus, voilà.
Alors, l'avantage de ce système, c'est qu'on s'est parlé, vous avez retranscrit fidèlement cette conversation, qui elle-même pourra peut-être aller dans un autre service, très rapidement pour le coup, pour pouvoir résoudre un problème, c'est ça aussi?
Tout à fait. L'usage, à quoi ça sert? On est sur 3 usages aujourd'hui pour la marque, donc on est bien sûr sur des conversations entre un client et une marque, et on va à la fois pouvoir en traduisant la parole et en comprenant derrière la traduction ce qui s'est dit dans les échanges, on va pouvoir booster les ventes pour la marque, c'est-à-dire se rendre compte des points de frustration, de friction sur l'avant-vente. Par exemple, pourquoi la marque n'arrive pas à aller à vendre ou le télévendeur va pas au bout de la vente au téléphone? Pourquoi le client va pas au bout de son achat? Et on va pouvoir l'aider en temps réel à remonter les infos et à bien comprendre ce que le client voulait pour essayer de réengager la conversation et vendre. Et sur la partie après-vente, on va être plutôt sur de la frustration. On va comprendre les indicateurs, les signaux faibles d'insatisfaction client, ouais, qu'aujourd'hui la marque n'entend pas, ne remonte pas dans son outil. Alors que quand on appelle une marque, on dit plein de choses, on se livre, on est même dans l'émotion et on aide à traduire cette émotion.
Et vous aidez aussi ces marques à comprendre que souvent leur service après-vente, pour ce détail-là, n'est pas forcément des plus performants.
Bien sûr, bah aujourd'hui c'est assez compliqué. C'est un job qui est aujourd'hui très complexe parce que on voit pas tous les process qui est autour de la conversation, c'est-à-dire quand on achète, quand on a des produits, on achète le produit, on va en magasin, ensuite on peut constater des problèmes et tous les process quand on veut rentrer en contact pour faire réparer un produit ou pour changer d'offre, ça bouleverse toute la chaîne et de la conversation. Tous les signaux passent à travers cette conversation-là et la marque n'a pas de poids statistique des process déviants dans toute la chaîne, voilà.
Alors, votre solution paraît simple, mais elle est extrêmement complexe à mettre en place parce qu'il faut écouter, retranscrire, je dirais anonymiser ces données. En plus, avec la RGPD, tiens, ça doit être simple, ça, non?
Bah avec la GDPR, exactement. La RGPD, on y travaille depuis plus d'un an, puisque on a signé qu'avec des grandes marques, donc on a dû depuis un an préparer le terrain. On a un DPO externe, donc un avocat, un juriste, qui travaille avec nous sur ces sujets. On accompagne les marques vraiment de très près et on anonymise, bien entendu, Michel, les données sensibles, les données de carte bancaire. Elles ne sont jamais traduites, elles ne sont jamais enregistrées. Les données privées, on est là juste pour récupérer une information intentionniste que le client délivre.
C'est important de le rappeler. D'autres innovations autour de ce concept même, c'est-à-dire de, j'ai presque envie de dire, d'écoute de proximité, cette affaire-là.
Effectivement. Alors, on est sur des projets, c'est encore un petit peu tôt pour en parler, mais Mais oui, on va l'intérêt, c'est je vais plutôt dire l'année prochaine, c'est qu'on commence à prototyper le cookie vocal non plus uniquement sur le téléphone, mais sur les conversations humaines spontanées entre deux personnes, un vendeur, un client, en anonymisant beaucoup plus finement forcément la conversation, mais pour qu'on commence à collecter des parcours de conversations dans des boutiques. Là où aujourd'hui la parole est éphémère, la marque n'entend pas ce qui se passe en boutique quand un client parle.
Alors vous êtes au Big Boss aujourd'hui, c'est pourquoi? Pour présenter ce concept-là en disant on a peut-être une solution pour vous, pour mieux répondre aux attentes de vos clients.
Tout à fait, aujourd'hui les Big Boss c'est clairement notre cible, on est sur une cible très marketing, très CRM et relations clients, il y a vraiment ces trois cibles-là. Et aujourd'hui on est là pour effectivement, les Big Boss c'est pour nous comme un haut-parleur, pour montrer que cette techno existe, que finalement le téléphone est un canal qu'on peut traquer aussi bien qu'un canal purement digital comme le SMS, l'email, et qu'on arrive à numériser avec encore plus de richesse pour comprendre la voix du client.
Quand je vous écoute et quand j'ai écouté la plupart des différents intervenants, que ce soit ici ou à travers cette émission, je me dis il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de techno, mais l'humain est en train de revenir, y compris demain avec l'intelligence artificielle. On sent que l'humain reprend sa place. J'aimerais avoir votre vision, ce sera ma dernière question, sur l'évolution du e-commerce à travers les technologies ou à travers les comportements ou les usages, ou peut-être que les deux sont influencés, je sais pas si c'est les technologies qui changent les comportements ou les comportements qui font que les technologies s'adaptent, j'en sais rien, c'est un vrai débat. Mais comment est-ce que vous voyez le e-commerce dans les années à venir?
Aujourd'hui, on parle partout d'hyper-personnalisation. Ça veut dire qu'on va exploiter la data de plus en plus finement pour comprendre en temps réel. C'est aussi le nouveau sujet de l'e-commerce. Et on a la data, comment en temps réel on actionne le bon média au bon moment à la personne par rapport à tout ce qu'on peut collecter sur elle pour optimiser, fluidifier toute la vente, tout le parcours et donc finalement vendre beaucoup mieux. Et donc l'intelligence artificielle permet de regrouper tout ça et demain on va clairement arriver à des usages où quand on va rentrer en boutique, aux États-Unis ils sont déjà très en avance là-dessus. On prend juste l'exemple de Disney, les parcs Disney aux États-Unis c'est juste les number one en UX, en expérience client. Et en matière de tracking, voilà, et de push par rapport aux médias et au moment de la vie, au moment de vie, enfin c'est vraiment extraordinaire.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Romain Sambarino, je rappelle le nom de votre entreprise, Allo Media, merci beaucoup. Alors quand on parle de communication, on parle souvent de publicité et on veut savoir ce que cela donne et mesurer l'impact d'une publicité à la télévision directement sur les ventes. Eh bien, c'est une des activités de l'agence DCMN. Laurent Thévenet, responsable Media Offline, bonjour.
Bonjour.
D'abord, précisément, que faites-vous? Vous faites pas que mesurer l'impact, mais d'abord, sur ce point-là, vous mesurez, c'est ça?
Effectivement, on mesure. Nous sommes avant tout un partenaire de croissance, de start-up et de pure player. Et nous avons une approche holistique et data-driven qui allie l'expertise métier et la technologie. Nous avons par ailleurs aidé près de 180 marques digitales dans le monde à développer leur business et donc effectivement ça passe par une vision holistique et donc à la fois l'achat média classique mais surtout la mesure de son impact.
Alors on va essayer d'être un petit peu plus clair, je suis un annonceur, vous m'apportez quoi de plus? C'est-à-dire que moi je vais faire une campagne offline, une campagne online, et vous avez quoi? Développer des logiciels très poussés qui permettent de mesurer exactement où est partie ma publicité et exactement l'impact qu'elle a pu avoir sur ma cible.
C'est ça, comme nous travaillons exclusivement avec des pure players, ils ont des problématiques d'acquisition de trafic ou de conversion et de génération de conversion. Et donc quand on déploie un plan télé par exemple pour le compte d'un annonceur, on a la possibilité de mesurer grâce à notre technologie propriétaire l'impact immédiat d'un spot télé sur le trafic ou sur les conversions en fonction de leur objectif du site internet ou de l'application si c'est le cas.
C'est-à-dire ma pub passe à la télé et paf, vous mesurez immédiatement les gens qui l'ont vu, éventuellement s'ils sont venus acheter directement chez moi.
Effectivement, à partir du moment où le plan média est connu de notre plateforme, c'est-à-dire en étant chargé avec toutes les données qui composent ce plan, évidemment l'heure qui est détectée, l'heure de diffusion, le coût du spot, son audience, c'est le film qui a été associé, et ensuite à partir d'un pixel qui est déposé sur le site, on mesure le comportement du visiteur et effectivement on le flag jusqu'à la conversion en fonction des objectifs du client.
pour rester sur le domaine de la télé, c'est toutes les chaînes qui diffusent de la publicité que vous êtes capable de cibler, enfin d'observer, on va dire, pour pouvoir ensuite les retranscrire, pour voir ensuite l'impact que la pub a pu faire sur le site.
Effectivement, à partir du moment, en temps réel en tout cas, à partir du moment où elles sont détectables par les flux satellites, le plan peut être analysé en temps réel. Si c'est pas le cas, ce sera après la campagne, une fois que les chaînes nous auront remis leur relevé de diffusion, voilà, qui seront chargés dans l'outil.
Ça veut dire quoi? Quand on est capable de mesurer ça, c'est qu'on est capable peut-être de changer une campagne, peut-être de changer des horaires de diffusion, peut-être de changer le message?
Effectivement, c'est le but pour nous, en tant qu'agence, en tant que média planeur, pour optimiser nos achats. C'est le but de pouvoir ensuite, avec toutes ces analyses, identifier les chaînes qui performent, les tranches horaires, les films qu'il faut supprimer, les formats. Est-ce que, par exemple, un format 20 secondes performe mieux en prime time qu'en journée? Quelle est la chaîne qui va générer le plus de volume de visite ou de conversion? Toutes ces données-là nous permettent de ranker les performances du plan média pour ensuite prendre des décisions d'optimisation auprès des régies et orienter nos achats.
Ce qui veut dire qu'un client qui vient chez vous, enfin une marque hein, pour le coup, elle a pratiquement la garantie que vous allez positionner plus ou moins ses spots, quitte à les changer en cours de route pour que ces spots aient un impact maximal.
Effectivement, alors en cours de route, ça dépend toujours de la flexibilité que nous avons dans le temps avec nos partenaires régies publicitaires qui évidemment montent les spots à l'avance. Mais effectivement, le but, c'est d'optimiser, de réduire les coûts, par exemple le coût par visite quand il s'agit de générer du trafic, de façon à ce que notre client ait un retour sur investissement, en tout cas qu'il soit optimisé au mieux dans le temps. Par exemple, à budget ISO, on peut évidemment augmenter, doubler même le volume incrémental généré par la campagne si le plan est optimisé de la meilleure façon.
Vous êtes venu aujourd'hui au Big Boss, c'est pourquoi? C'est pour leur dire, faites aussi de la télévision, ce média n'est pas complètement largué si j'ose dire, mais on est capable de mesurer, savoir si vous la faites bien.
Effectivement, c'est encore un priori de penser que la télé est en déclin, en tout cas c'est vrai que l'audience a été redistribuée avec l'offre qui s'est élargie, mais en rencontrant tout ici au Big Boss l'ensemble des acteurs du e-commerce et notamment les start-up, les jeunes pousses, il est question ici de leur dire, de les convaincre que la télé n'est pas non plus un média inaccessible, que l'on peut très bien engager des campagnes test avec des tickets d'entrée accessibles. Et c'est ici l'occasion rêvée de pouvoir le démontrer.
Merci beaucoup Laurent Thévenet, responsable média offline chez DCMN. Allez, on change de décor, à tout de suite.
Business Club de France, les entreprises françaises en mouvement sur BFM Business.
Alors on a beaucoup parlé dans cette émission de e-commerce, de vente, de communication, mesure d'impact des campagnes de communication. Et si nous parlions un peu des consommateurs, des vrais, qui ont leur mot à dire et ils ont aussi une importance pour les e-commerçants, à condition que ce soit des avis vérifiés. Tom Bramy, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez cofondé et vous êtes directeur général de l'entreprise Avis Vérifié, tout est dans le nom, mais que faites-vous précisément?
Alors, on est un spécialiste donc de l'avis client dans son ensemble, qui est un vaste métier aujourd'hui. On va dire on est expert de la voix du client, qui est aujourd'hui un sujet majeur dans la plupart des grands groupes. Donc, on est un expert de la récolte d'avis, de la modération, de la restitution et ensuite de l'analyse de toute cette donnée-là pour aider les marques et les sociétés à améliorer leurs process et leurs relations avec les clients.
Est-ce que ce sont les avis que l'on peut lire en bas des produits qui sont en vente sur les pure players, style Madame Michu a bien aimé tel produit? C'est ce qu'on peut voir, hein?
Alors, ça c'est une partie des avis. On a été créé en 2012 et après 6 ans d'activité, le sujet a beaucoup évolué. C'est-à-dire aujourd'hui, on est un spécialiste du sujet qui accompagne aussi bien des pure players que des très gros retailers, donc de l'avis concernant un achat online ou de l'achat concernant un avis magasin. Donc l'avis produit est une des parties du sujet avis client, voix du client, mais il y a également les avis concernant les marques. Qu'avez-vous pensé de votre expérience d'achat sur le site ou lors du passage en magasin? Il y a également tous les avis qui sont liés vraiment au détail du parcours d'achat en magasin, l'accueil, l'amabilité, etc., qui va aider une société à améliorer ses process et son management. Donc c'est devenu en quelques années un sujet beaucoup plus vaste et beaucoup plus complet qu'il y a 5-6 ans, où c'était plutôt pure player, avis produit, de manière assez basique.
Il n'empêche qu'on s'est longtemps posé la question sur la qualité de ces avis. On s'est longtemps posé la question sur le vrai consommateur qui était derrière et qui a réellement procédé à un achat ou qui a réellement visité une boutique. On s'est dit, on a l'impression que par moment, c'est peut-être la marque qui a un peu... Bref, comment est-ce que vous faites pour vérifier la pertinence de ces informations?
Alors, en fait, on est même pas à devoir se concentrer sur de la vérification. Notre métier, donc on est une boîte qui est très technologique, on est interfacé en fait avec les systèmes de commande. Si c'est un pure player ou un site e-commerce, on va récupérer la donnée d'achat par des modules, des cartridges, on vient s'interfacer techniquement, on récupère la donnée. Pour un achat en magasin, c'est la même chose. Donc, à partir du moment où on déclenche un email de demande d'avis, c'est forcément qu'il y a eu un achat. C'est pas possible de venir faire ce qu'on appelle du dépôt volontaire. Où là, c'est en effet compliqué de vérifier ce qu'il y a eu vraiment achat, etc. On a inversé complètement des sociétés comme la nôtre, ont inversé complètement la façon de faire et le modèle. Si on doit comparer avec un acteur majeur dans le tourisme Booking, qui travaille très bien le sujet, on fonctionne exactement de la même manière. Sur Booking.com, vous n'allez pas pouvoir déposer d'avis si vous n'avez pas eu une réservation, un acte de consommation avec cette plateforme.
Si vous avez un consommateur qui a réellement acheté un produit et... il vous dit de manière méchante, ce produit ne marche pas, alors qu'il a juste oublié de mettre les piles. C'est pas très pertinent comme critique. Est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que vous pondérez un petit peu ce genre d'avis?
Alors, on en tient compte, et notre métier aussi, on a un rôle de conseil. On est là pour aider les marques à comprendre que la critique, même si dans un cas comme celle-là, on a l'impression qu'elle va pas forcément être très constructive parce que pas détaillée, la transparence est payante à la fin. Donc il faut laisser une publication de quasiment tous les avis. La modération, elle va permettre d'écarter des avis où il va y avoir des injures, vraiment des grossièretés, des choses qui ont pas leur place parce que ça va nuire à l'image de marque d'une société. Mais sinon, tous les avis sont bons à prendre et de toute façon, cette phase de relation client, même quand c'est un avis, par exemple produit, c'est un bon exemple qui va pas être détaillé, qui paraît inintéressant, c'est le bon moment pour interagir avec son client et recréer un peu du dialogue, se rapprocher de lui.
Tous ces process que vous avez mis en marche chez vous pour justement avoir des avis vérifiés, ces process ont-ils été certifiés par un organisme extérieur qui vous permet de dire, voilà les différents niveaux que l'on a mis en place et là on peut vraiment vous dire que cet avis est vérifié?
Alors tout à fait, le sujet d'ailleurs a beaucoup bougé. Il y a 6, 7 ans, 8 ans, il n'y avait aucun cadre juridique sur le sujet, aucune certification. La France a été vraiment précurseur au niveau européen et mondial, donc il y a une norme qui est sortie, une certification, on a participé aux travaux de rédaction. Récemment, il y a un décret, une loi qui ont été rajoutées sur le sujet à la demande d'Axel Le Maire quand elle était ministre du numérique, qui ont repris une grande partie de ce que la certification impose. Et aujourd'hui, il y a un ISO là mondial donc est en fin de rédaction sur le sujet qui cadre vraiment justement la récolte, la modération, la restitution. Quelques grandes règles, par exemple, un marchand va être obligé par le biais du tiers de confiance certifié de sonder 100% de ses clients. Autre exemple, un avis qui va être refusé pour une raison légale. Là où il y a quelques années et encore aujourd'hui, certains acteurs non certifiés ne vont pas prévenir l'internaute, le client de la non-publication. Avec nous, automatiquement, on envoie un email expliquant que l'avis ne va pas être publié et la raison de cette non-publication. Donc on reste pareil dans un dialogue, une explication. Ça a vraiment cadré le sujet.
Quand même, vis-à-vis de vos clients, si les critiques sont vraiment mauvaises et peut-être même justifiées pour le coup, comment vous faites? Vous n'avez pas une situation un petit peu gênante là?
Alors, on le vit très bien, et ce qui se passe, c'est qu'assez naturellement, finalement, les acteurs qui sont pas sérieux, qui vendent des produits qui ne sont pas qualitatifs, vont s'écarter de systèmes comme les nôtres. Ils vont tester quelques temps, ils vont voir que le niveau d'insatisfaction est trop important, et on va rien avoir à faire, ils vont partir, et ils vont arrêter, en fait, la transparence. Donc, finalement, on se retrouve à accompagner des grands groupes qui, pour la plupart, sont sérieux, ont des process, et vivent de mieux en mieux, en fait, cette transparence et cette critique, qui est vraiment constructive. On est plus dans la situation d'il y a 4-5 ans, où il fallait faire beaucoup de pédagogie sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est accepté et c'est intégré qu'il faut avoir cette transparence parce qu'elle permet de s'améliorer.
On est au Big Boss, ici en Grèce, en compagnie de Tom Brami, d'Avis Vérifié. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter ici?
Alors nous, on est venu présenter et représenter à certains, puisqu'on a des clients qui sont ici, le fait qu'on a une offre qui est très complète, parce que beaucoup d'acteurs qui regardent le sujet de manière un peu lointaine ont l'impression que c'est très basique ce qu'on fait. En fait, c'est très technologique. Pour donner un ordre d'idée, on est une société d'à peu près 75 salariés, on a 30 développeurs informatiques avec différents pôles, on maîtrise tout un tas de technologies, et venir s'interfacer avec des systèmes d'information ou des plateformes e-commerce lourdes comme Ibris, Salesforce Cloud, etc., ça demande demande d'avoir une vraie technicité, une vraie connaissance de son métier. Donc on vient expliquer à des marques et à des annonceurs qui pour certains travaillent pas le sujet, le travaillent mal ou sont un peu frileux, le fait que derrière des sociétés comme la nôtre, il y a une technologie très complète qui va pouvoir les aider à traiter correctement ce sujet voix du client sans avoir plusieurs technologies, plusieurs budgets. La grande tendance est là. Il y a quelques années, des grandes sociétés avaient souvent plusieurs technologies pour traiter ce sujet. Un acteur de l'avis produit, un acteur pour les avis magasins, des enquêtes NPS, etc. La grande tendance est d'unifier sa stratégie voix du client et de choisir un seul acteur référent pour travailler le sujet de manière omnicanale.
Ça veut dire que là, les technologies évoluent et votre manière de travailler évolue aussi, c'est ce que je crois comprendre. Comment, allez plus globalement, comment vont évoluer demain l'avis des consommateurs, puisque c'est quand même d'eux qu'on parlait en finale, dans l'évolution globale du e-commerce qui lui-même, par le biais des différentes technos et des nouveaux comportements, évolue. Quelle est votre vision? Allez, regardons à 10 ans ou 20 ans.
Alors, peut-être pas sans aller à 10 ans ou 20 ans, parce que je vais avoir du mal à me projeter aussi loin, mais dans les prochaines années, ce que je pense, c'est que c'est une évolution qui est pas juste e-commerce. Justement, il y a de plus en plus de passerelles entre le magasin, le monde réel et le e-shop. Ce qui va se passer, c'est qu'on va voir de plus en plus, là c'est encore très peu développé, les avis produits de manière numérique, en fait, dans les rayons des magasins. C'est très peu fait. Vous allez dans un magasin Fnac ou dans un magasin Darty aujourd'hui. Le vendeur Darty, de plus en plus, est incentivé et poussé à regarder pour la connaissance du produit et sa manière de vendre les moyennes des produits récoltés par des technologies comme les nôtres, vu qu'on accompagne par exemple Fnac Darty. Mais finalement, vous, en tant que consommateur, vous vous retrouvez dans des allées avec une expérience qui est un peu la même qu'il y a une dizaine d'années. Dans quelques temps, on verra de plus en plus de petites tablettes numériques affichant la moyenne quasiment temps réel, comme sur le e-shop en fait. Quand vous allez sur un e-shop, il y a la moyenne, le détail, etc. avec les dates. C'est ce qui va se passer, je pense. Il va y avoir des passerelles sur ce sujet-là.
Vous, c'est votre cœur de sujet, mais j'imagine que l'avis du consommateur, parce que ça on le dit toujours, le partage d'informations finalement entre consommateurs, restera de plus en plus déterminant demain pour le taux de transformation, notamment en achat pour les pure players. Ça restera une clé.
Ouais, et je vais étendre ça, parce que c'est vraiment la tendance, c'est que maintenant on parle plus qu'avec des pure players, on parle également avec des groupes beaucoup plus traditionnels, on accompagne des acteurs comme Engie, Air France, oui SNCF, qui vraiment capitalisent beaucoup sur des outils comme le nôtre. On le voit, je pense qu'il y aura pas d'effet de mode sur ce sujet, c'est-à-dire ça va pas redescendre. C'est redevenu quelque chose d'incontournable dans les stratégies des groupes. Ça avait été un petit peu délaissé, ce côté voix du client, connaissance client. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que ce sont des technologies comme la nôtre ne sont plus utilisées juste pour la transformation, mais vraiment pour la connaissance produit. Exemple, les marques textiles qui fabriquent leurs propres produits. Quand elles vont lancer un produit avec une nouvelle coupe, une nouvelle matière ou sortie d'une nouvelle usine, tous les avis produits qui arrivent par des outils comme les nôtres les aident à savoir si ça a été un bon choix de travailler avec cette usine, si ce nouveau coton est qualitatif et ce qu'il faut continuer avec. Donc ça devient essentiel. D'ailleurs, pour compléter, il y a quelques années, on parlait essentiellement avec le marketing online des personnes du digital. Aujourd'hui, 9 appels d'offres sur 10 autour de la table, il y a la direction générale, la direction commerciale, la direction marketing, la relation client, enfin la société entière en fait. C'est ce qui a changé.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander, ça sera ma dernière question. 2012, création de Avis Vérifié à Marseille, vous êtes d'ailleurs toujours à Marseille, je crois savoir. 2018 aujourd'hui, que de parcours, mais vous avez suivi toutes les évolutions, non seulement des attentes des consommateurs, mais aussi des nouveaux comportements des consommateurs, mais aussi des nouvelles attentes et de transparence des marques. Et ça va continuer ça.
Tout à fait, ouais, ça va continuer. Donc, on va essayer de continuer notre développement en restant focus sur ce qu'on fait, tout en s'ouvrant aux évolutions. On est sur beaucoup de pays, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on nourrit notre métier, notre stratégie aussi en observant ce qui se passe dans le monde entier, vu qu'on couvre entre 20 et 25 pays avec des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne. Là, on vient de faire une opération de croissance externe. On a racheté un concurrent brésilien. Les Brésiliens fonctionnent pas du tout de la même manière que nous. Donc, c'est très intéressant. Ce qu'on se rend compte, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, les grands groupes veulent vraiment travailler avec le moins d'acteurs possible sur des sujets et avoir une stratégie unifiée au niveau monde, c'est-à-dire un acteur qui les accompagne, que ce soit pour le e-shop italien ou le e-shop suédois et pour leur magasin. Donc voilà, c'est intéressant. En tout cas, c'est un gros sujet qui évolue énormément et on a remis les acheteurs au centre de tout ça en leur redonnant la parole. Ça, c'est intéressant.
J'aime bien parce que vous cherchez à faire des choses simples, mais c'est excessivement compliqué derrière pour que justement ce soit simple. Merci Tom Brami, cofondateur et directeur général d'Avis Vérifié. Voilà, vous en savez un petit peu plus et vous en saurez encore plus sur le blog de l'émission, plus de précisions sur les sujets abordés, des images, des vidéos. Bref, tout pour revivre cet instant magique ici en Grèce, au bord de la mer Égée. Le blog, c'est businessclubdefrance.com. Merci de votre fidélité.